1, 2, 3, 4.
Crazy Afrobeat. Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus ce mardi 5 septembre sur Radio Django et Radio La Fabrique. Il est 18h et c'est le grand direct, 110e édition, une heure d'émission de vie lausannoise. Au programme ce soir, c'est trois sujets qu'on va vous proposer et on va commencer ce soir dans Vivre à Lausanne par la traditionnelle pause syndicale. Fabio, ce soir il est question d'un sujet mis en votation le 24 septembre prochain, soit dans à peu près quoi, 3 semaines, la fameuse prévoyance vieillesse 2020.
Oui, et on a déjà parlé de cela en mars de cette année, mais comme on est à 2 encablures d'une votation très importante et que les esprits, ça n'aura échappé à personne, s'échauffent très très fort, on s'est dit qu'il fallait qu'on surchauffe aussi du côté de Django.
Et bien voilà, c'est le programme de ce mardi 5 septembre pour Vivre à Lausanne, bien sûr. Dans 20 minutes, Daniel, ce sera la rose des vents et rendez-vous avec une polémique, celle autour du franc CFA en Afrique.
Alors oui, il s'agit d'une monnaie qui ne cesse de faire débat en Afrique déjà depuis quelques années, voire plusieurs années, et qui s'est amplifiée. Un débat qui, depuis janvier 2017, se prolonge dans plusieurs villes africaines et européennes par des rassemblements organisés par les diasporas africaines. Et c'est ainsi qu'en février 2017, Lausanne a accueilli une manifestation anti-CFA en Suisse. Finalement, cette monnaie entrave au développement ou facteur de stabilité.
Voilà, on en parle avec deux invités tout à l'heure au micro de la Rose des Vents. Ce sera avec toi, Daniel. Enfin, à 7h20, Cultiver Lausanne et deux expositions à Lausanne au programme de Cultiver Lausanne. Jean-Luc.
Oui, alors ce soir, nous allons présenter deux expositions. Une qui se déroulera à la librairie de la Chambre Noire, qui propose à nouveau l'exposition de Luc Chessé, hein, Cocacce, dont on avait déjà parlé.
Voilà, il y a quelques semaines de
et
ça.
Et la seconde exposition aura lieu à l'espace Rambert 22, qui nous fait découvrir les peintures de deux artistes burkinabés, le peintre Sambo Body et le sculpteur Vincent de Paul Zungrana.
Voilà donc pour le programme et le menu de ce soir. La pause syndicale qui parle de la prévoyance vieillesse 2020, le franc FCA qui fait polémique et deux expos à Lausanne. C'est le programme concocté pour vous, pour ce grand direct à écouter sur radio.django.fm et en DAB sur La Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce grand direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et comme tous les premiers mardis du mois, voici la rubrique consacrée au monde syndical. Jingle.
La pause syndicale.
Nous avions déjà parlé de la prévoyance vieillesse 2020 ou prévoyance vieillesse 2020 en mars avec Geneviève de Rame au moment du lancement du référendum par les unions syndicales et les mouvements de gauche vaudois et genevois.
Oui, et celui-ci a abouti avec plus de 70 000 signatures. Donc, nous voterons le 24 septembre prochain sur ce projet Prévoyance Vieillesse 2020 et l'augmentation de la TVA qui lui est directement liée. Pour rentrer dans le vif du sujet, voici un extrait de Mise au point, une émission de la RTS.
Dans cette PME, Christina, la secrétaire, a 56 ans. Elle devra désormais travailler jusqu'à 65 ans. C'est ce qu'a décidé le Parlement cette semaine. Qu'en pense-t-elle ?
À l'heure actuelle, je ne trouve pas forcément très juste. Du fait qu'il n'y a pas cette parité des salaires, si on parle d'égalité, il faut que ce soit l'égalité partout, pour tout. On ne se limite pas au travail, nous les femmes, hein, entre l'éducation, le ménage, tout. On est occupé bien au-delà d'un 100%. Je dirais jusqu'à présent, c'était bien que les femmes soient peut-être mises au repos un petit peu plus rapidement.
Alors, avec notre invité du jour, nous allons tenter de mieux comprendre en quoi cette décision politique impacte sur un parcours de vie ordinaire.
Bonjour Monique Missiego.
Bonjour.
Merci de nous accorder du temps au micro de Radio Django. Tu es technicienne en informatique à l'État de Vaud. Tu nous as autorisé à dire que tu as 60 ans, mère de 2 enfants et grand-mère d'un petit garçon de 5 ans. Tu es aussi une militante du Parti ouvrier populaire, le POP.
Bienvenue sur Radio Django.
Merci.
Alors, Valérie. Comme nous venons de le dire, on aimerait en savoir un peu plus sur ton parcours de vie. Peux-tu nous raconter comment s'est passé le début de ta vie professionnelle ?
Alors, j'ai commencé en 74 par un apprentissage de téléphoniste au PTT et puis je suis restée jusqu'en 77. Après, j'ai fait de l'intérimaire, j'ai eu des enfants assez tôt, en 80 et 83. Et puis, j'ai continué de l'intérimaire jusqu'en 87 à peu près, où je suis rentrée au CHUV. Et je suis restée 13 ans au CHUV comme téléphoniste, en faisant des horaires irréguliers, ce qui me permettait d'être avec mes enfants dans la journée, ou le matin, ou l'après-midi, enfin de varier quand même les temps de présence.
Aussi des, excuse-moi, aussi des horaires le week-end ?
Le week-end et la nuit, oui.
Et la nuit.
Oui. Ce qui permettait d'être en congé pendant la semaine et puis voilà, de pouvoir suivre mes enfants, comme beaucoup de femmes font ce sacrifice pour pouvoir être avec leurs enfants le plus souvent. Et puis j'ai fait 13 ans au CHUV, puis après j'ai voulu un peu bouger dans le CHUV. Je me suis dit que j'avais des compétences en secrétariat que j'avais eues dans diverses associations. Et puis j'ai cherché du travail dans le CHUV comme secrétaire. J'en ai trouvé, pas très rapidement, mais j'en ai trouvé. Et puis au bout de 2 ans, mon patron m'a proposé de certifier mes compétences en me proposant de faire un article 41 à l'âge de 45 ans, ce que j'ai fait en formation du soir pendant 2 ans.
Un article 41 ?
Un article 41, je crois que ça ne s'appelle plus comme ça. C'est un apprentissage, un cours d'emploi, mais un cours du soir.
Donc, pour avoir les
pour avoir le papier de le CFC d'employé de commerce. Voilà.
Et donc, tu as fait tout ça en étant mère au foyer,
exactement.
Maman,
exactement.
Et épouse.
Et épouse, exactement.
Bon, on voit comme pour beaucoup de femmes, ton parcours n'a pas été linéaire.
Non, hein.
Que s'est-il passé entre le moment où tu étais employé au CHUV, comme tu viens de nous le dire, comme téléphoniste, et ton actuel emploi de technicienne en informatique?
Alors, je suis partie, une fois que j'ai eu passé mon CFC d'employé de commerce, je suis partie du CHUV, on voulait voir comment c'était ailleurs. Et puis, j'ai eu un peu de mauvaise expérience, ce qui fait que je me suis retrouvée au chômage. Et puis, j'avais 50 ans, j'ai mis une année pour retrouver du travail. Sur une année, j'ai eu 3 entretiens.
Parce qu'à 50 ans, c'est difficile.
Parce qu'à 50 ans, voilà, c'est difficile. Et puis, on ne nous prend déjà plus, surtout pour être réceptionniste. Surtout pour, ça fait meilleure façon si c'est une petite jeune. Enfin, il y a plein de critères.
Oui,
ouais. Et puis, les personnes plus âgées, ben, on coûte cher. Et puis, voilà. Ce qui fait que je me suis dit qu'il fallait que je m'en sorte et puis que je rue dans les brancards. Et puis j'ai commencé à envoyer des CV en mettant pas mon âge et puis en stipulant sur la lettre qu'il n'y avait pas mon âge, que c'était fait exprès. Parce que si mon âge était mentionné, ils allaient forcément le mettre de côté. Et puis je développais un peu plus dans la lettre en disant que je n'allais pas les manquer le lundi matin parce que j'avais fait la foire, je n'allais pas les poser dans 6 mois parce que je serais enceinte, etc. Qu'une personne de 50 ans, on est quand même plus mûr, on sait pourquoi on est là. Donc forcément, on a une loyauté qui est peut-être plus... Enfin, une loyauté, c'est peut-être trop fort, mais enfin, on peut compter sur nous plus qu'une jeune qui n'aura pas forcément... Voilà.
Donc, même sans dire ton âge précisément dans la lettre, certains employeurs t'ont...
On fait alors, pas ça de marchait te... très vite.
Du ça moment, marchait très vite.
Oui, du moment que j'ai fait cette démarche, ça marchait très vite. En un mois, j'ai eu 3 rendez-vous. Puis le premier rendez-vous où je suis allée, ben, ça a fonctionné parce qu'il m'a dit, oui, votre lettre, elle était quand même un peu hard. Puis j'ai dit, ben, c'était quand même le but, c'est de heurter un peu pour montrer que voilà, 50 ans, on n'est pas fini parce qu'autrement...
Il faisait une drôle de tête quand il vous voyait arriver finalement de se dire, ah, ben, en fait, elle n'a pas 25 ans, mais elle en a un peu plus.
Non, je crois qu'il s'est un peu douté. Il m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez convoqué? Puis il m'a dit, c'était pour voir qui y avait derrière cette lettre. Mais après, il m'engage et voilà. Puis ça, maintenant, ça fait 10 ans que je suis là-bas.
Bah, félicitations.
C'est une belle recette qu'on fait passer sur Django.
Oui, il ne faut jamais lâcher le morceau. Autrement, voilà.
On a un deuxième petit extrait. On va l'écouter tout de suite, encore un extrait de mise au point de la radio-télévision suisse.
19h, Fatima Mendes prend son service de nuit. Elle est instrumentiste à l'hôpital d'Yverdon. Cela fait 34 ans qu'elle travaille avec des horaires irréguliers.
Quand on fait une nuit très chargée, le lendemain, on le ressent. C'est pas la même chose quand on avait 30 ans ou même 40. Et puis c'est plus difficile à récupérer.
Voilà, mise au point du 19 mars 2017, Valérie.
Oui, alors Monique, comme tu l'as dit, tu as aujourd'hui 60 ans et tu travailles depuis ton entrée en apprentissage. C'est-à-dire, ça va faire 43 ans de travail, encore plus que cet urgentiste qu'on vient d'entendre. Quels sont ton regard et tes attentes sur la retraite ?
Alors mon regard et puis mon sentiment, il est quand même un peu amer, parce que quand je suis rentrée à la caisse de pension en 87, c'est-à-dire à mon entrée dans le CHUV, j'ai reçu une belle lettre en me disant que j'aurais ma retraite en 2019, c'est-à-dire à 62 ans. Donc depuis, on nous a volé 2 ans aux femmes, et puis maintenant on veut de nouveau nous voler une année. Donc voilà, c'est toujours les femmes qui payent, je trouve que c'est pas très correct. Et puis, l'autre chose que je voudrais souligner aussi, c'est que les femmes de mon âge, de ma génération, elles sont grand-mères plus tard. Moi, j'avais une mère qui était grand-mère à 45 ans, elle avait toute son énergie, c'était différent. Mais les femmes de ma génération, on arrive à 60 ans, on est grand-mère, donc on doit aussi, on a envie, mais on doit aussi s'occuper des fois pour soulager un peu les parents. Et puis, de l'autre côté, on a une génération de nos parents qui vit encore, puis qui ont aussi besoin de nous. Donc, on est vraiment pris entre deux feux, et puis on doit jongler de tous les côtés. Ça, c'est difficile. On a l'énergie à 60 ans. Est-ce qu'on l'aura à 64? Et puis, qu'est-ce qu'il adviendra à 65? C'est ça. Le travail qu'on fait des deux côtés, il a aussi de la valeur. Et puis, il faut aussi qu'on le reconnaisse. Et puis, en nous prenant cette année de plus, moi, je trouve qu'on ne reconnaît rien du tout de ce qu'on vaut. Voilà, on balaye de la main cet appui et puis cette aide qui a de la valeur aussi. Voilà.
Donc, toi, tu as 60 ans maintenant, et si PV 2020 passe, toi, tu es dans la classe d'âge qui fait que tu auras une année de
pile
plus.
Pile poil, oui.
Pile poil.
J'ai des copines qui ont 61 ans, elles vont passer entre les gouttes. Moi, je suis pile poil dans la frange.
Donc, ceux qui vont s'en prendre plein les dents, c'est-à-dire de devoir travailler plus longtemps.
Exactement.
Combien d'années précisément est-ce qu'on estime le changement? Combien d'années en plus de travail?
Ah, une année.
Une année.
Oui, oui. De 64 à 65.
Voilà.
Mais d'accord. Une année, quand on arrive, quand on sent le bout, c'est très long, quoi. Mm-hmm.
Valérie.
En fait, la mise en place de PV 2020 va se faire très vite, c'est-à-dire que dès l'année prochaine, les femmes qui ont 63 ans aujourd'hui devront travailler 3 mois de plus. En fait, ça va se faire progressivement sur 4 ans. Donc, il y aura 3 mois de plus, après 6 mois de plus pour celles qui sont une année plus tard. Et puis, les femmes comme Monique qui sont à 4 ans de la retraite, elles vont le prendre en plein. C'est-à-dire qu'elles auront carrément une année de plus à faire.
Et tout ça commence à partir de l'année 2018, le 1er janvier 2018.
Oui,
hein.
Oui.
Donc, on rappelle, c'est pour les personnes qui sont nées à partir de 1958.
Oui, c'est ça.
1958, oui.
Exact.
C'est ça.
Question à la militante que tu es, Monique, par rapport à cette votation et surtout après tout ce que tu nous as raconté de ta vie de professionnelle, de maman, d'épouse, quelle est ta position par rapport à cette
votation? Je suis toujours écœurée parce que voilà, on vient de dire que cette votation, cette décision, elle va être mise en place en 4 ans. 4 ans, c'est peu. L'égalité salariale, ça fait plus de 20 ans qu'elle est inscrite dans la Constitution. Elle n'est toujours pas mise en œuvre. Les femmes gagnent en moyenne 20%, 18 à 20% de moins que les hommes. Et ça, ça fait des années et des années. Et ça continuera certainement des années. Alors, je suis énervée de voir que par moment, on arrive à mettre en place des décisions très, très vite. Et puis, pour d'autres, alors voilà, il y a toujours des empêchements. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et puis, au final, c'est toujours les femmes qui payent.
Oui. Alors, sur la question justement de l'augmentation de l'âge de la retraite, on va encore écouter un dernier extrait où on entendra ce qu'en pense le directeur médical des HUG de Genève.
Donc les hôpitaux universitaires de Genève, oui. Qu'on écoute.
Aux hôpitaux universitaires de Genève, le directeur médical constate une hémorragie de départ en retraite avant l'âge légal.
Vous en pensez quoi de ce relèvement de l'âge de la retraite des femmes?
Je n'en pense pas du bien, parce que 40 ans... Dans une profession, prenons l'exemple d'infirmière ou d'aide-soignante ou de sage-femme, c'est beaucoup d'années, comme je dis, au front.
Monique Misiego, pour vous, alors le 24 septembre, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter? Que ce soit accepté ou que ce soit refusé, très clairement?
Que ce soit refusé, très clairement,
refusé.
Oui.
Absolument.
Très clairement.
Voilà, pour vous
puis
et pour toutes
pour
les...
nous et puis pour tout le monde, quoi, pour toutes les femmes, parce qu'on est encore loin de l'égalité.
Ouais. Valérie, pour les hommes, ça change quelque chose aussi? L'âge de la retraite évolue aussi le 24 septembre?
Non, pour les hommes, l'âge de la retraite restera le même qu'aujourd'hui. Par contre, ce qui va impacter peut-être plus fort les hommes que les femmes, puisque les hommes sont plus nombreux à être bénéficiaires d'un deuxième pilier, voire d'un deuxième pilier confortable, ben c'est que le taux de conversion va baisser. Donc, à capital égal, il y aurait une baisse de la rente du deuxième pilier si le projet est accepté.
Et il y aura une augmentation de la TVA, qui est un des impôts les plus...
Antisocial.
Antisocial, parce que tout le monde paye la même chose, que tu gagnes 3 millions par jour ou 40 francs, ben tu payes la même chose de TVA sur toute une série d'articles, etc., qui sont quotidiens.
Voilà, puisque c'est une valeur relative du pourcentage de chaque bien. Voilà donc pour cette votation du 24 septembre prochain. Merci beaucoup Monique Misiego.
De rien, c'est un plaisir.
Une belle soirée, merci beaucoup de votre investissement et du temps que vous nous avez accordé ce soir. On vous tient les pouces pour le 24 septembre.
Oui.
Enfin, à vous et à nous tous, puisque notre avenir est vous toutes. Oui. Je vous propose maintenant à 18h, passé de 15 minutes, de retrouver les habituelles brèves proposées par plusieurs sections syndicales romandes.
Convention collective des transports publics lausannois. La consultation est lancée.
Les négociations pour le renouvellement de la convention collective ont abouti. C'est maintenant aux salariés des transports lausannois de se prononcer sur les résultats de la délégation de négociation juste satisfaisant. Celle-ci invite les membres du syndicat des transports SEV concernés à voter oui à la consultation en cours. Le système salarial est clair et transparent. L'idée de salaire au mérite a été abandonnée. Une semaine de vacances supplémentaires a été obtenue et le congé maternité ne pénalisera plus les femmes dans leur progression salariale. Les résultats de cette consultation des membres seront connus le 26 septembre.
Unia et le personnel de Coop et Migros à Clissier gagnent une première manche contre l'extension des horaires.
Le personnel de Migros et Coop, soutenu par Unia, a réussi à faire reculer les géants Orange qui entendaient dès le 28 août ouvrir jusqu'à 20h et même 21h les jeudis et vendredis. Le Léman Centre de Coop et les 3M de Clissier ainsi que plusieurs de leurs succursales de l'Ouest lausannois et de la Riviera. Dès la nouvelle connue, Unia a réagi et protesté contre le fait que le personnel n'avait même pas été consulté. Suite à une pétition qui a circulé dans les magasins, Coop a décidé de faire machine arrière pour entamer une procédure de consultation de ses salariés. Quelques jours plus tard, Migros cédait à son tour. Le personnel de vente voit d'un très mauvais œil de telles extensions des heures d'ouverture qui ne peuvent que péjorer les conditions de vie et de travail. Cela aurait notamment un impact important sur la vie sociale et familiale, déjà mise à mal par les ouvertures du samedi, les gardes problématiques pour les enfants et la surcharge de travail avec parfois des semaines de 50 heures.
Unia a réussi à imposer l'interdiction du travail du dimanche des gardes-centres dans toute la Suisse.
Il y a 3 ans, le syndicat Unia a gagné au tribunal cantonal fribourgeois une action contre la maison Schilliger qui voulait ouvrir son enseigne à Matron les dimanches et jours fériés comme elle le faisait déjà dans le canton de Vaud. Schilliger s'appuyait sur une interprétation très souple du SECO, le secrétariat d'État à l'économie, des possibilités de déroger à la loi sur le travail qui interdit d'employer du personnel le dimanche. Le tribunal a contesté cette interprétation du SECO jugée trop laxiste. Concrètement, un magasin de fleurs, denrées périssables et destinées à être offertes dans la journée, peut ouvrir et faire travailler des salariés le dimanche, mais pas les garden centers qui vendent du matériel de jardinage, du mobilier et bien d'autres articles. À la suite de ce jugement du tribunal fribourgeois, le SECO a revu sa copie en mai dernier et indiqué très clairement dans sa directive que les garden centers étaient exclus de l'autorisation d'ouvrir le dimanche. Une décision qui devra s'appliquer partout en Suisse, y compris dans le canton de Vaud.
La grève du biais, 40 ans après.
Un mois de grève au pays de la paix du travail. Tel est le nom du film de Véronique Rotelli, dont la première s'est déroulée le 2 septembre dernier à Neuchâtel. Le film revient sur cette grève emblématique des employés de l'usine Dubier au Val de Travers, qui se sont battus en 1976 pour préserver leur 13e salaire. Ce film confronte aujourd'hui les acteurs de la grève, ainsi que les non-grévistes, aux images tournées à l'époque et met en perspective le rôle et l'action des syndicalistes de la FTMH, garants de l'ordre et de la paix sociale. Le film est sur les écrans neuchâtelois La Chaux-de-Fonds et Delémont jusqu'au 12 septembre. D'autres projections sont prévues dans d'autres lieux, notamment à Sainte-Croix, en terre vaudoise. Agenda à suivre sur bigsurfilm.ch, lien que vous retrouvez sur le site de l'émission.
Et voilà ce que le monde syndical local nous transmet comme information ce début septembre 2017, période de rentrée, pas seulement scolaire ou encore littéraire, mais aussi politique et syndicale. Merci beaucoup Valérie. Au mois prochain, rendez-vous le mois prochain.
Mais oui, avec plaisir.
Et merci Fabio également. Rendez-vous avant, j'imagine, pour toi. Voilà. Merci à vous deux pour la préparation de ce sujet. Rendez-vous dans un mois, tout juste, hein, comme je le disais, au lendemain d'une date très importante, puisqu'on en parlait ce soir. C'était au menu de cette pause syndicale, la votation du 24 septembre sur la prévoyance vieillesse 2020 et l'augmentation de la TVA qui lui est directement liée. Retrouvez ce sujet en podcast sur notre site www.django.com. .fm. Musique avec Juliette Gréco. Elle va arriver, Juliette Gréco.
T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants, jolie môme. Ça sent bon, fais-en don aux amis, jolie môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, jolie môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, jolie môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, faut se la faire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente, et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, ah faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qu'éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller, et va chez lui la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Joli môme.
Voilà pour ce titre Joli môme, signé Juliette Gréco, et c'est un titre composé par Léo Ferrer.
Radio Django, la rose des vents.
Ce soir, dans la rose des vents, nous parlons de monnaie et plus exactement des polémiques autour du franc CFA, une monnaie qui ne cesse de faire débat en Afrique depuis plusieurs années déjà, et une polémique qui s'amplifie. Débat qui, depuis janvier 2017, se prolonge dans plusieurs villes européennes par le rassemblement organisé par les diasporas africaines. C'est ainsi qu'en février 2017, Lausanne a accueilli une manifestation anti-CFA en Suisse. Daniel, c'est avec toi ce sujet. Alors, avant de comprendre pourquoi cette monnaie soulève autant de passion, où utilise-t-on le franc CFA ?
Alors, 14 pays subsahariens de la zone franc CFA utilisaient cette monnaie. Cependant, il y a deux sortes de francs CFA dans ces pays. À parité égale, 656 francs CFA font 1 euro. Les billets ne sont pas les mêmes et sont encore moins interchangeables.
Oui.
Plus de 150 millions de personnes font usage de cette monnaie dans la zone franc.
Mais alors, c'est quoi cette zone de franc CFA ?
L'acronyme franc CFA a tout d'abord signifié les colonies françaises d'Afrique. Il désigne aujourd'hui deux zones distinctes qui font usage de ce franc CFA. Une zone étant la communauté financière d'Afrique qui regroupe sept pays dont le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Ces pays font partie de l'UEMOA, qui est l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, et ils ont en commun la BCEAO, donc la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, dont le siège est à Dakar, au Sénégal. Mmh. Et ensuite, il y a l'autre zone, qui est la coopération financière d'Afrique, qui réunit les pays composant la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, et elle comprend le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, pour ne pas tous les nommer. Et ces pays sont affiliés à la Banque des États de l'Afrique centrale, dont le siège est à Yaoundé, au Cameroun. Notez que les Comores, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie et Wallis et Futuna font aussi partie de l'actuelle zone franc.
D'accord. Mais alors, depuis les indépendances de 1960, tous ces pays de la zone franc ont recouvert leur souveraineté monétaire ?
Non, justement. Et il semblerait que la plupart de ces pays nouvellement indépendants, ont sous la pression de la France préféré rester sous la tutelle du Trésor français plutôt que de devoir assumer une transition vers la création de monnaie souveraine ou communautaire. Aujourd'hui, le franc CFA, dans les anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest, s'appelle franc de la communauté financière africaine et porte le nom de franc de la coopération financière en Afrique centrale dans les ex-colonies d'Afrique équatoriale française. Si depuis les indépendances, cette monnaie commune reste controversée et divise. Le débat aujourd'hui s'amplifie et trois grandes questions se posent. Quitter la zone franc, rester dans cette zone ou réformer le système monétaire?
Oui, effectivement, trois questions fondamentales qu'on va essayer de répondre et d'aborder ce soir. Et pour en parler, nous accueillons deux étudiants qui suivent de près le débat actuel sur le franc CFA. Bonsoir Abdoulaye.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes d'origine sénégalaise. Vous poursuivez un master en communication à Lausanne. Ouais. Et bienvenue à vous également, Ibrahima. Vous êtes d'origine ivoirienne et pour ce qui vous concerne, vous êtes en master actuellement, un master en économie et finances publiques à l'IDEAP, l'Institut des hautes études en administration publique de Lausanne. Vous êtes tous les deux installés en Suisse depuis quelques années. Pour quelles raisons cette controverse autour des francs CFA vous touche-t-elle autant?
Ok, bonjour, bonsoir. Merci de nous avoir invités à ce plateau. C'est toujours un honneur de venir intervenir dans votre émission Radio Asaba Django. Cette controverse nous touche d'abord car nos pays respectifs font partie de la zone franc, à savoir le Sénégal et la Côte d'Ivoire. En plus, étant étudiants, nous suivons de près l'actualité africaine, particulièrement en ce qui concerne nos pays. Ensuite, on est appelé à être des acteurs qui doivent impulser un certain renouveau dans l'optique d'une émergence de l'Afrique.
Finalement, on pourrait se poser la question, Ibrahima, autour de toute l'histoire de la création du franc CFA, qui continue de nourrir des relents anticolonialistes. Et dans quel contexte est né, dans quel contexte historique, dirait-on, est née cette monnaie?
Okay, Abdoulaye. Merci. Je dirais que le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, comme vous l'avez rappelé tantôt, a été inauguré en 1945 pour restaurer l'autorité monétaire hexagonale dans ces territoires isolés de la métropole durant la guerre. Cette monnaie fut créée dans un contexte particulier qui a subi la Deuxième Guerre mondiale et l'instauration des accords de Bretton Woods en 1944. Un accord économique qui a dessiné les grandes lignes du système financier international en 1944. Ce franc CFA devait évoluer dans une zone franc créée par Paris dans ses colonies dès 1939 pour protéger l'économie métropolitaine des aléas de l'économie de guerre. Puis celle d'après-guerre. La France avait besoin de mettre à l'abri de la spéculation sa production de matières premières venues des colonies et nécessaire à sa reconstruction. Pour cela, elle avait besoin d'une monnaie différente, du franc, métro, devise fragile face à la compétitivité industrielle de l'époque. C'est ainsi que le Fonds monétaire international accepta l'idée de créer un sous-franc, le franc CFA, à condition que cette monnaie ne circule qu'au sein de la zone franc et que sa convertibilité soit uniquement garantie par le Trésor français, puis fut imposée trois ans plus tard, la fixité du champ de change.
Lourd héritage. Ibrahima, on assiste aujourd'hui à l'émergence d'un débat public sur le franc CFA partout dans l'espace francophone. Oui. Le franc CFA reste une monnaie qui divise. Oui. Quels sont les arguments des pourfendeurs, donc des attaquants du franc CFA?
Oui. Les arguments des pourfendeurs sont principalement relatifs en premier lieu sur le fonctionnement même du CFA, notamment son arrimage à l'euro, qui est une monnaie forte pour les pays en voie de développement, sa convertibilité qui est garantie par le Trésor français, ce qui n'est évidemment pas sans conséquence sur l'économie des pays de la zone CFA. Puis le fait de cibler un objectif de taux d'inflation, plus ou moins 2%, qui est trop bas et restrictif pour des pays en voie de développement. Et deuxièmement, en effet, la profondeur avance les arguments, entre autres que le franc CFA n'a pas favorisé le développement économique des pays qui le partagent.
Et il serait aussi synonyme d'instabilité politique. Mais finalement, qui sont en fait ces pourfendeurs du franc CFA? Est-ce que ce sont plutôt des étudiants, des commerçants ou des fonctionnaires?
Nous dirons plutôt que ce sont des intellectuels engagés, des économistes, des étudiants comme nous, des écrivains comme...
Kémi Séba, dont Kémi on va peut-être parler.
Oui, et bien d'autres actifs chevronnés qui se sentent impliqués pour le développement de l'Afrique.
Alors Abdoulaye, qui est Kémi Séba?
Ouais, Kémi Séba, c'est un... On dirait que c'est un activiste, mais aussi c'est un écrivain d'origine... Un écrivain français d'origine béninoise.
Qu'est-ce que vous pensez de son dernier geste qui vient d'enflammer la presse, notamment en Europe, il y a à peine 3 jours?
Ouais, je dirais que c'est un geste très courageux.
Qu'est-ce qu'il a fait? Rappelez-nous ce qu'il a fait exactement pour qu'on puisse se mettre un petit peu dans le bain.
Ouais, c'est vraiment très intéressant parce qu'il a osé brûler
un billet de
5000 francs CFA.
Qui correspond
à 10 francs suisses ou 10 francs euros. Suisses. Ouais, et c'est vrai que quand il a fait ça, ça a vraiment soulevé un soulèvement populaire en Afrique. Tout le monde se disait que ouais, même s'il est un pourfendeur du franc CFA, il a vraiment abusé en fait en prenant le franc CFA. Parce que ce qu'il condamne en fait, comme j'en avais parlé tantôt avec Ibrahim, disait que ce qui était condamnable, c'est le fait d'avoir brûlé un billet.
Mais en fait, on ne conteste pas les manifestations.
Non, c'est plutôt
ce geste, en fait.
C'est plutôt le geste qui est remis en cause.
Ibrahima, que disent les partisans du franc CFA?
Oui, les partisans du franc CFA.
Alors, Abdoulaye, merci.
Oui, les partisans du franc CFA soutiennent que l'arrimage du franc CFA à l'euro est la garantie du trésor français. Encourage l'investissement, la croissance et la stabilité monétaire.
Pour un peu plus développer cet argument, il faut dire qu'en termes de croissance, ses partisans soutiennent que le CFA favorise la croissance et il s'appuie sur des exemples de performance économique actuelle de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, mais cela ne reflète pas la situation de tous les pays de la zone. Et nous savons aussi que ces exemples de réussite ne semblent pas être durables car ce sont des économies qui ne sont pas suffisamment diversifiées. Et en termes d'encouragement aux investissements, vu que le franc CFA est arrimé à l'euro, cela encourage les entreprises européennes à échanger avec la zone, les pays de la zone.
Mais finalement, est-ce que ce discours ne serait pas plutôt celui en fait des États?
Nous répondons par l'affirmatif car nos élites africaines, à savoir nos présidents, jouent la carte de la prudence et de l'assurance, à commencer par nos présidents respectifs, qui à chaque fois qu'on les pose la question sur le CFA, répondent que c'est une monnaie qui nous garantit une certaine assurance et une stabilité. Et le président Ali Bongo, le président du Gabon, aussi abonde dans ce sens en disant qu'il faudrait mieux rester dans le cadre du franc CFA dans lequel nous avons des assurances. Avec un peu de recul, nous pourrions emprunter les propos de l'économiste togolais Kako Nubuku qui parle de servitude volontaire de la part de nos dirigeants, car ces derniers pouvant faire évoluer le système préfèrent rester dans une servitude volontaire qui leur garantisse des ressources matérielles et symboliques non négligeables, à commencer par le transfert en toute sécurité de leur avoir en Europe.
Ibrahima, vous êtes d'origine ivoirienne. Qu'est-ce que vous pensez de Tiémoko Omielekone, qui est le gouverneur de la BCAO, qui dit justement que le franc CFA est géré par les Africains?
Effectivement, le franc, il dit que le franc CFA est géré par les Africains. Donc, je pense que comme les chefs d'État et les autorités, ils ne disent que les vertus du franc CFA. Que tout le monde connaît, qui est les avantages d'avoir une zone monétaire et ils ne disent pas l'autre côté du revers de la médaille.
En fait, ils considèrent plutôt l'Hexagone et les puissances occidentales plus comme des partenaires plutôt que comme des personnes en fait, qui seraient, je veux dire, contre l'Afrique de manière générale.
Oui.
Dans quelle mesure, 60 ans après les indépendances des ex-colonies françaises, la France continue de gérer la monnaie des pays africains faisant partie de la zone franc. Concrètement, comment ça se passe? Et je vous demanderai tout simplement de nous expliquer comment fonctionnent les réserves. Abdoulaye ou Ibrahima? C'est une question complexe quand on parle de réserve. Et c'est vrai qu'il est difficile d'admettre...
Oui, ça c'est vrai, c'est une très bonne question, mais très intéressante et très complexe. Comme on l'a dit tantôt, la principale caractéristique du franc CFA est que sa parité est fixe par rapport à la monnaie utilisée en France, c'est-à-dire l'euro. Mais ce ne sont pas les banques centrales des pays de la zone CFA qui garantissent ce taux de change fixe. C'est plutôt le trésor français. De manière plus concrète, les traités prévoient que le trésor s'engage à fournir des euros en échange de francs CFA et réciproquement à ceux qui le demandent, à condition qu'une réserve de change de la zone CFA soit suffisante, c'est-à-dire que les autorités doit veiller à ce que la monnaie mise en circulation soit toujours couverte à hauteur de 20% au minimum. Ainsi, les pays des deux zones CFA doivent, en plus de cela, déposer auprès du trésor public français 50% de réserves de change. Les euros offerts par ce trésor sont donc en réalité gagés sur des réserves en partie détenues par le trésor lui-même. Par conséquent, en 2015, les réserves constituaient plus de 10 milliards d'euros qui pourraient financer les investissements des pays pauvres de la zone franc plutôt que dormir sur un compte du trésor français. Une manne d'argent qui pourrait être réinjectée pour construire des infrastructures comme des écoles de dispensaires ou bien électrifier les zones rurales en Afrique.
Donc finalement, ces réserves posent vraiment problème. D'après Étienne Giraud, président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique, le franc CFA dessert les exportations des pays africains. Dans quelle mesure est-ce que cette monnaie reste un obstacle au développement de l'Afrique ?
Le franc CFA est un obstacle au développement dans la mesure où aucun pays de la zone n'a le pouvoir de créer de la monnaie selon ses besoins économiques. Cela peut donc ralentir l'économie puisque ces pays ont en quelque sorte les mains liées dans la conduite de leur politique monétaire.
Pour conclure, Ibrahima et Abdoulaye, quelles seraient les solutions qui pourraient se dessiner à l'horizon d'ici 2020-2022 ?
Ouais, nous pouvons dire que les États africains peuvent essayer de se doter d'un instrument capable de relancer la croissance, essayer de relancer la compétitivité des biens industriels produits localement, mais surtout le plus important, gérer activement les réserves. Et pourquoi pas aussi adosser le franc CFA à un panier qui comprendrait aussi des devises comme le yuan, car la Chine est devenue actuellement le premier partenaire commercial de la zone. Le dollar et le livre sterling aussi pour tenir compte du Nigeria qui détient l'essentiel de ses réserves dans cette monnaie.
Et qu'est-ce que vous pensez de la création d'une monnaie unique africaine ? Est-ce que c'est envisageable ?
Oui, c'est envisageable. Pour ma part, je peux dire que l'une des solutions immédiates serait de réduire considérablement les 50% de réserves. Et deuxièmement, de négocier l'abandon du système de compte d'opération qui est très controversé.
Oui, on retiendra finalement, Daniel, que le franc CFA entrave le développement et le facteur de stabilité de bon nombre de pays en Afrique.
Malheureusement, oui. Le débat pourrait continuer des nuits. Néanmoins, pour Kako Nuboko, un économiste togolais, pourfendeur du franc CFA, co-auteur de Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA, qui est paru donc aux éditions La Dispute en 2007, l'abolition du franc CFA, vestige amovible de la colonisation, n'est pas une idée, c'est un programme. Une autre Afrique est possible, ce n'est pas seulement une utopie. Merci.
Merci. Effectivement, c'est ce qu'on retiendra de cette question hautement délicate. Merci beaucoup, Abdoulaye. Merci beaucoup, Ibrahima. Et tous nos remerciements également à Alliance Sud de Lausanne qui nous a permis de nourrir cette réflexion par divers articles en lien avec le sujet. Merci beaucoup à Daniel pour la préparation de ce sujet et les rendez-vous nombreux et multiples, il paraît.
Absolument.
Merci beaucoup. Un sujet à retrouver en détail et avec tous les détails sur notre site www.django.fr.
ont créé la colonisation. Lorsqu'on a trouvé la solution, ils ont créé la coopération. Comment dénoncer cette situation? Ils ont créé la mondialisation. Et sans expliquer la mondialisation, c'est Babylone qui nous exploite. On en a marre. Ils ne nous respectent pas, c'est la même chose pour leur loi. Ils ne regardent même pas quand le peuple réclame ses droits. Ils ne vantent surtout pas l'argent, c'est pas qu'il y en a pas. Ils ne font rien pour nos sisters qui se vendent pour vivre dans ce monde-là.
Tiken Jafakoli, Yonamar, c'était ce titre proposé à 18h41 pour clore cette rose des vents.
Radio Django, culture.
Ce soir, nous évoquons dans la rubrique culturelle deux expositions qui méritent le détour. La première est proposée par la Chambre Noire, lieu situé à la rue César Roux numéro 5, si vous ne connaissez pas. Cette librairie spécialisée dans les livres de photographie présente l'exposition de photos Cocacce de Luc Chessé. Le vernissage aura lieu le jeudi 7 septembre à 17h30 en présence de l'artiste, bien sûr. Il y a deux mois, Stéphane recevait Luc Chessé sur les ondes de Radio Django pour parler de ce magnifique livre.
Radio Django, culture.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Nous accueillons ce soir dans la rubrique Cultiver Lausanne, Luc Chessé, un photographe lausannois mais néanmoins mondialement connu, on peut le dire, pour nous parler de son dernier livre.
Effectivement Fabien, son dernier ouvrage paru qui s'intitule Cocacce et recueille, comme on peut assez facilement s'en douter, des clichés reflétant avec l'ironie propre à son regard l'omniprésence dans l'espace public latino-américain des années 60-70, tant de l'icône révolutionnaire que du géant du soda.
Bonsoir Luc Chessé.
Bonsoir.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django.
Merci, merci.
Tout d'abord, Stéphane, avant de parler en détail de son œuvre Cocacce, peux-tu nous donner quelques infos sur la vie de Luc Chessé ?
Oui, alors on ne va pas faire le résumé ici de toute sa tumultueuse vie, parce que ce serait trop long.
On y sera encore demain.
Exactement. En plus, d'autres s'y sont déjà attachés avec talent, que ce soit en film ou sur les ondes, notamment Plan Fixe et puis aussi la RTS, nos collègues. En revanche, si tu le veux bien, on va quand même signaler quelques dates importantes du parcours de Luc, afin de mieux contextualiser en fait le sujet qui nous intéresse ce soir. Donc, en 1961, 2 ans après la Révolution cubaine et 3 ans après être sorti de l'école de photographie de Vevey, Luc, tu débarques sur l'île. Alors, au départ, tu n'envisages pas de t'installer, seulement d'y rester un certain temps afin de recueillir assez de matériel pour réaliser ensuite, de retour en Suisse, un livre de photos.
Mais finalement, Luc Chessé, vous allez demeurer 14 ans à Cuba, ce qui n'est pas rien quand même. Hein.
Non, pas rien.
Voilà. Quoique les 4 ou 5 dernières années, Luc, tu les passes surtout à voyager en Amérique latine, pour le compte de la revue qui t'emploie, Prensa Latina. C'est d'ailleurs pour le compte de cette publication que tu pars en 1971, accompagné d'Ernesto González Bermejo, en Bolivie, sur les traces du récemment assassiné Che Guevara. Donc là, on est au début des années 70, tout va bien pour toi. En 1975, toutefois, l'idylle avec le régime castriste prend abruptement fin. Tu es expulsé de Cuba et tu te retrouves bien malgré toi plongé dans la grisaille helvétique. 2 ans après ton retour dans l'amère patrie, tu conçois l'exposition « Quand il n'y a plus d'Eldorado » qui se prolongera en un livre avec ton vieux complice Hans Rudolf Lutz et même en un film co-réalisé par Claude Champion, Jacques Pilet et toi. Après, tu passes à autre chose, si on peut dire, et tu te retrouves impliqué tant dans l'humanitaire en mettant ton appareil au service de la Croix-Rouge que dans la vie locale. Tu vas même partir un temps pour faire le tour du monde. En 2014, beaucoup d'eau ayant coulé sous les ponts, tu montes l'exposition « CCCC ». À savoir Castro Cocacce, chercher la femme au musée de l'Elysée. Et aujourd'hui donc, Luc, tu es au micro de Radio Django pour nous parler de ton tout dernier livre, très beau, qui est paru en novembre de l'année dernière pour le compte de l'éditeur RM et se nomme, plus modestement par rapport à l'intitulé élyséen, Cocacce.
Donc, première question, Luc Chessé, venons-en directement au fait, votre production. Qui est à l'origine de ce nouvel ouvrage, vous ou l'éditeur?
C'est moi en fait.
C'est moi. Et une fois que j'ai eu l'idée de ce livre, j'ai cherché un éditeur. Et j'ai regardé dans ma bibliothèque les livres que j'aimais bien, qui étaient bien faits et qui me semblaient entrer en résonance avec mon travail. Ouais. Et j'ai pris contact avec RM à Barcelone. Ils m'ont invité, on a passé 3 jours ensemble, on s'est mis d'accord et voilà, ça a marché. C'était formidable, j'ai même pas eu besoin d'aller miauler à un service culturel du canton ou de la ville, à une fondation ou à la loterie romande. L'éditeur a fait le travail qu'on attend généralement d'un éditeur, mais il y en a bien peu qui le font, c'est-à-dire de financer le livre.
Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi cette envie de revenir sur le sujet après CCCC, que tu penses que ça offre un nouvel éclairage sur le sujet ?
Oui, CCCC, c'était un projet de Sam Sturze, qui était directeur de l'Élysée. Et en fait, il y a des photos du premier livre que j'ai publié avec Lutz qui s'appelle « Le visage de la Révolution », qui sont les portraits de Fidel Castro à Cuba. Et ça vient parasiter un peu l'idée de Cocace. En fait, l'idée de Cocace, elle est simple, hein, mais c'est vraiment une référence à un moment de l'histoire qui est relativement éloigné, c'est dans les années 60, jusqu'au début des années 70, l'Amérique latine, elle est quand même sur le ballon entre le statu quo et les révolutions. Il y a des mouvements de lutte armée dans tous les pays, pratiquement. Et l'emblème de l'insurrection, de la lutte armée, c'est le Che, hein, c'est le visage du Che, qui a été assassiné donc avant, mais son image reste vraiment l'emblème de la révolution. Et d'un autre côté, l'image du l'American way of life, du capitalisme, ben, c'est Coca-Cola. Et dans le paysage latino-américain de ces années, les deux images coexistent et se font face. Et j'ai trouvé que c'était une métaphore intéressante pour montrer l'époque historique que vivait le continent à ce moment-là.
Et au niveau de la maquette de Coca-Cola, qui est, n'ayons pas peur de le répéter, vraiment un bien bel ouvrage à tout point de vue, très Hans Rudolf Lutzienne, donc c'est, cette maquette-là, je pense que c'est voulu.
Oui, alors c'est moi qui l'ai faite avec des photocopies, de la colle et du papier. Et puis l'éditeur, évidemment, l'a reprise et l'a repassée par les mains d'un graphiste professionnel qui l'a un peu changé, mais en gardant quand même l'esprit de la maquette telle que je l'avais faite. Et moi, je l'avais faite effectivement dans l'esprit de Lutz, avec qui j'ai fait mes 5 premiers livres de photos et qui m'a influencé, qui était pour moi un ami et un maître.
Luc Chessé, les auditeurs n'ont malheureusement pas votre livre normalement sous les yeux. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu en quelques mots ? À quoi il ressemble ? Sa taille, ses photos, son contenu ?
Oh, c'est difficile, hein, mais comme l'a dit Stéphane, c'est un bel objet. Les photos sont pleines pages, elles ne sont pas pliées par le pli central du livre, c'est-à-dire que chaque photo occupe, qu'elle soit horizontale ou verticale, occupe une page entière. Et c'est un mélange donc de ces images de Che Guevara et de Coca-Cola, avec en arrière-plan ces paysages de la vie quotidienne en Amérique latine, la vie dans les villes et les campagnes.
Absolument. Et on rappelle le nom de votre ouvrage, Coca-Che. Merci beaucoup, Luc Chessé.
Merci à vous.
Et un sujet à écouter en podcast sur notre site www.django.fm. Et comme je vous l'ai dit, on vous a mis l'illustration de ce livre avec quelques liens importants. Merci Stéphane pour ce sujet. Voilà donc pour la rediffusion de ce sujet de Luc Chessé qui était parmi nous au micro de Stéphane il y a quelques mois de ça, deux pour être précis. Vous rappelez encore donc que cette exposition de livres, ce livre photo de Luc Chessé, Cocacce, aura lieu, le vernissage aura lieu jeudi 7 septembre à partir de 17h30 et puis l'exposition est visible dans les heures d'ouverture de la librairie du jeudi au samedi de 14 à 18h. Toutes les informations sur la-chambre-noire.ch. On vous met le lien, bien sûr, sur notre site www.django.fm. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Avec un micro, ce sera plus simple pour la radio. Avec toi Jean-Luc, on va voir une deuxième exposition qui se déroule à l'espace Rambert 22.
Oui, alors on va changer de continent. On va découvrir des artistes burkinabés. Sambo Boli, qui est peintre, et le sculpteur Vincent de Paul Zungrana. Et on va aller dans un petit espace qui est situé dans un appartement au deuxième étage à l'espace Rambert 22, situé à la même rue.
Radio Django est venu découvrir un endroit typique, l'espace Rambert 22, situé justement à l'avenue Eugène Rambert à Lausanne. Nous sommes accueillis par M. Gilbert Cujon, l'un des initiateurs du projet. Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous présenter le projet, nous parler de son origine et de ce magnifique lieu qui est un magnifique appartement?
Ce lieu est en fait un appartement qui appartient à ma femme et où elle, elle fait normalement son atelier parce qu'elle peint aussi. Mais voilà, cet appartement est sous-utilisé, donc on a décidé d'en faire un espace culturel privé, si vous voulez. À la demande, surtout à la bonne franquette, mais sérieux et professionnel autant que ça peut se faire. Ça fait déjà une année et quelques qu'on a cette possibilité. On a fait plusieurs expositions, des peintres amateurs, une exposition de patchwork, différentes choses de ce genre-là. Et maintenant, pour la première fois, en fait, on lance cet espace sous la forme d'une vraie galerie, d'exposer des œuvres de deux artistes burkinabés, Sambo Boli, peintre et dessinateur, et Vincent de Paul Zungrana, qui est sculpteur bronzier.
Pouvez-vous nous décrire un peu plus le travail qui mène?
Alors le peintre, il y a deux sortes d'œuvres ici. Il y a des toiles, qui sont des acryliques avec technique mixte, parce qu'il y a toujours un peu de mélange. Il y a du sable, il y a des objets des fois qui sont un peu collés dessus, des couches et des couches de peinture. Il y a les toiles et il y a aussi quelques dessins sur papier qui sont plutôt des aquarelles avec aussi un peu de technique mixte. Sambo Boli est un peintre qui au départ est un autodidacte. Il est né en 1960, si je me souviens bien. Il a fait une école coranique et puis après, ce qui l'intéressait, c'est la peinture, l'expression artistique. Au contact d'autres peintres, au contact de galeristes ou de critiques, il s'est développé et maintenant c'est un gars qui a exposé déjà plusieurs fois en Europe, qui est reconnu. Comment on expose un peintre africain ici? Je ne suis pas tout seul à organiser cette exposition. Il y a Git Teria, qui est une femme que certains connaissent parce qu'elle a été représentante pour l'égalité homme-femme à l'Université de Lausanne. Elle a connu ce peintre en 1998, connu ses œuvres dans une exposition à Porrentruy. Puis après, connu le peintre à une autre occasion. Elle est finalement allée au Burkina Faso en 2010. Elle l'a aussi rencontré. Elle rencontrait aussi le sculpteur Vincent de Paul Zungrana, dont je parlerai dans un petit moment. À partir de ce moment-là, ces deux artistes ont envoyé à Git Teria des œuvres en disant « Tu habites en Suisse, tu peux peut-être taper des opportunités pour vendre en Suisse. » Il faut savoir que les artistes en Afrique, souvent c'est dur parce que la population n'a pas les moyens et n'a pas le goût non plus et la culture pour acheter des œuvres artistiques. C'est vrai que quand la première préoccupation de beaucoup de gens, c'est encore de manger, c'est vrai que l'art passe en deuxième plan. Et c'est comme ça qu'elle a reçu des colis avec des toiles, avec des bronzes, etc. Et qu'elle a commencé à faire des ventes en appartement. Lors d'une de ces expositions, moi j'ai rencontré Git Teria et on a parlé assez rapidement d'un projet d'exposition dans cet espace, Rambert 22, d'où l'exposition d'aujourd'hui. Entre-temps, je suis allé au Burkina Faso comme je vais quasiment chaque année. Et depuis 2016, je vais régulièrement voir ces deux artistes, Sambo Boli et Vincent Paul Zungrana, qui sont devenus des amis, à qui j'ai acheté des œuvres, des pièces aussi, qui sont exposées aussi aujourd'hui ici.
on peut dire que c'est des artistes contemporains, parce qu'on voit qu'ils s'appuient sur des techniques classiques, traditionnelles, mais qu'il y a une forme différente.
Tout à fait. On s'éloigne évidemment beaucoup de la peinture pour les touristes ou des bronzes pour les touristes qu'on rencontre beaucoup dans ces pays. Là, on est à un niveau nettement supérieur. Ces gens, même si Sambobili est à la base un autodidacte, il a une réflexion artistique sérieuse. Vincent de Poisson-Grana, le bronzier, lui, a suivi une école d'art. Il est un petit peu plus âgé que Sambo, si je me souviens bien. Mais on voit que c'est vrai. Le bronze aussi, c'est quelque chose de fort, d'expressif.
Et qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans l'art africain, de manière générale, puisque vous êtes comme un amateur éclairé?
C'est difficile à dire, c'est une question que je vous dis, je ne suis pas professionnel de l'art. J'apprécie l'expression, le fait que les gens se mettent dans l'œuvre, dans leur œuvre. Et les gens du Burkina, moi, c'est des gens que j'adore. C'est des gens qui sont super sympas, drôles. Et aussi, j'ai beaucoup d'amitié là-bas et beaucoup d'amitié pour eux. Quand ils s'expriment, de la manière dont on voit là les deux s'exprimer, moi, ça me touche parce que c'est une autre culture, mais le fond humain est là. Et c'est ça que je rencontre, je pense. Parce qu'au niveau culturel, c'est clair que même si je vais au Burkina depuis assez longtemps, j'ai de loin pas tout compris. Et je ne comprendrai jamais tout, c'est sûr. Mais disons, l'homme, c'est l'homme. Et moi, je crois à ça. Je crois au fait qu'on se retrouve très profondément. Quand on regarde profondément, on se retrouve.
Un coup de cœur par rapport à vos œuvres, surtout là, enfin, que ce soit peinture ou sculpture?
C'est assez simple, c'est les œuvres que j'ai ramenées moi. Ici, l'homme à la valise, qui est une superbe sculpture en bronze, où on voit un homme qui est symbolisé juste par une pièce de bronze avec sa tête. Et la tête a une expression extraordinaire, et à ses pieds, une valise. Et on ne sait pas tout à fait si ce type est un voyageur, si c'est un migrant, émigrant ou immigrant, l'expression de son visage, interrogatif, etc., est quelque chose qui m'interpelle moi beaucoup. Pour les toiles et les dessins, moi je suis plus attiré par les petits formats. Il y en a des formats qui sont assez grands, là, en général. Il y a des petites toiles qui sont exceptionnelles dans une de nos salles, là. Et les dessins aussi, les aquarelles sur papier que je trouve formidables. Mais j'aime tout, en fait.
Je remercie M. Gilbert Cujon de m'avoir accueilli dans ce magnifique espace.
Merci à vous. C'était gentil aussi de s'intéresser à nous. On espère qu'on aura du public et que ça va intéresser les gens.
Voilà, on termine sur ces quelques notes de Rokia Traoré, une visite que tu as menée pour nous, Jean-Luc.
Oui, alors je me suis déplacé dans cet espace. C'est une belle découverte, hein, des gens qui mènent une expérience intéressante. Et les tableaux m'ont vraiment surpris, quoi. J'aime bien ce genre de tableaux qui sont conçus avec différents matériaux. Il y a des espèces de collages, etc. Et le travail en cire perdue, donc, parce que c'est un travail de sculpture en cire perdue, vraiment, vraiment bien, je veux dire, avec des formes vraiment très modernes, avec l'expression là justement dont il parle de ce personnage qui est avec sa valise, beaucoup de symbolique, beaucoup de symbolique.
On ne tombe pas dans le cas où on arrive sur quelque chose pour les initiés, finalement, c'est un peu ouvert à tous.
Ah non, c'est vraiment, non, il n'y a pas d'art conceptuel, non, c'est vraiment des choses, des belles choses à voir, et simplement qu'on est un peu transporté par justement ces peintures, et puis aussi les sculptures... Voilà, le bronze, hein, c'est une très très belle matière, donc on se laisse emporter. Si on a envie, on se laisse emporter. Et c'est vrai qu'il n'y a pas du tout, c'est pas folklorique, quoi, évidemment. C'est vraiment des personnes qui ont envie de s'exprimer et qui donnent des choses très profondes d'eux-mêmes.
Voilà donc pour cette exposition qui se tient actuellement à l'espace Rambert 22. Le peintre et dessinateur Sambo Boli et les sculpteurs Vincent et Paul Zugrana. Vous dire encore que les différents horaires d'ouverture sont encore pour ce week-end. Hein. Vendredi 8 septembre de 17h à 20h, samedi 9 septembre de 14h à 20h et dimanche le 10 de 11h à 17h. Toutes les infos sur espacerambert.ch.
Oui, il semblerait qu'on peut prendre rendez-vous par téléphone. Le téléphone est sur le site. Mm-hmm. Je crois que M. Cujon est prêt à se déplacer pour faire visiter. C'est un peu ce qui est sympathique aussi par ces nouveaux espaces qui sont créés actuellement.
Voilà, donc n'hésitez pas pour découvrir toutes ces sculptures et ces œuvres d'art à l'espace Rambert. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette découverte.
Merci Fabien.
Trois sujets au menu de ce grand direct. Nous avons commencé avec la pause syndicale qui parlait de la prévoyance vieillesse 2020 dont on va voter tout bientôt. Nous avons également parlé du franc CFA qui fait polémique et puis à l'instant deux expositions à Lausanne, des expositions photo, sculpture, etc. avec Jean-Luc et Stéphane. C'était le programme de ce mardi 5 septembre sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, rendez-vous avec quelques coups de cœur littéraires et la rentrée de Basta. Et puis, nous vous parlerons également de Voyage, Voyage, une campagne qui démarre bientôt à Lausanne et qui interroge les notions de tourisme, de voyage, de mobilité à travers une vingtaine d'événements pendant 3 mois. Ce sera autour de Fabio. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau grand direct à l'écoute de radio.django.fm et sur le DAB grâce à La Fabrique. Merci beaucoup à la technique et à toute l'équipe qui a œuvré pour la réalisation de cette émission, Fabio, Daniel, Jean-Luc et Stéphane, et Nico bien sûr à la technique. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de vos programmes respectifs. Il est 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.